France Inter.
France Inter. Dorothée Barba.
Bonjour à toutes, bonjour à tous. Le Poitou dans les carnets. Les Deux-Sèvres sont à l'honneur cette semaine puisque le jeu des 1000 euros s'est installé à Saint-Gelais et je dresse un inventaire non exhaustif d'initiatives dans ce département. Sachez au passage que le site internet des chaussures Gatine fonctionne à nouveau. Vous avez été très 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 nombreux à vous connecter mardi au moment où l'une des deux patronnes de cette marque de chaussures Made in France était mon invitée. Tout est rentré dans l'ordre, vous pouvez donc vous précipiter sur ces pompes fabriquées à Pompe. Père, près de Parthenay. Au programme des carnets aujourd'hui, une association de Niort qui organise des voyages en Pologne en mémoire des victimes de la Shoah. Et une formation au métier de la reciculture près de Thouars, l'art de transformer des déchets en ressources. Soyez les bienvenus.
Carnet de campagne, le journal des solutions.
Je donne la parole aujourd'hui à un homme qui mène un combat inlassable contre l'oubli en organisant des voyages dans des lieux de mémoire et notamment à Auschwitz. Bonjour Michael Butting.
Bonjour Dorothée.
Vous êtes allemand, Michael. Vous avez grandi en Allemagne et vivez en France depuis 30 ans maintenant. Vous avez créé à Niort l'association Mémoire Partagée. Comment est née au départ cette envie d'accompagner le grand public et les scolaires dans des voyages pour rendre hommage aux victimes de la Shoah ?
Moi, je suis né en Allemagne en 1954 et la confrontation avec les années sombre du fascisme a toujours été un élément important pour ma vie. Parce que j'ai grandi à une époque où il régnait une vraie chape de plomb sur cette période-là, de 33 à 45, et toutes nos questions qu'on avait, et puis elles étaient nombreuses, à nos parents et à nos grands-parents, elles sont restées sans réponse. Moi, j'ai effectué ma première visite à Auschwitz en 1973 en tant que jeune objecteur de conscience, et depuis, je suis retourné à de nombreuses reprises sur ce lieu où les nazis ont déporté, exploité, assassiné plus d'un million d'enfants, de femmes et d'hommes, en grande partie parce qu'ils étaient juifs, mais il y avait aussi des tziganes, des homosexuels, des prisonniers de guerre russes ou des résistants de tout pays. Et au départ, c'était une initiative très, très personnelle que j'avais fait avec un ami allemand et où on avait dit il faudrait qu'on amène notre famille proche, nos amis proches sur ces lieux-là. Puis à partir de 2018, on a donc créé cette association pour pouvoir s'adresser à d'autres publics, des publics scolaires surtout.
Vous êtes à la retraite, Michael, après une carrière de formateur dans l'insertion professionnelle. Rien à voir donc avec le devoir de mémoire.
Non, rien à voir avec ça. Donc c'est vraiment lié à mon histoire personnelle ou à mon histoire en tant qu'Allemand, parce que moi je suis pas le seul, évidemment, nous, les gens de notre génération, pour nous ça a toujours été et ça a toujours resté vraiment... un élément très très important cette période du fascisme, et ça nous paraît tellement important d'amener des jeunes là-bas, surtout des jeunes, parce que les gens comme vous et moi, évidemment, ils peuvent aussi aller de leur propre initiative, mais pour les jeunes, ça me paraît vraiment indispensable de leur montrer ce qui s'est passé.
Comment votre association est-elle financée?
Tout simplement par la participation des gens qui partent avec nous en voyage. Nous, on demande évidemment rien pour l'organisation de tout ça, c'est du bénévolat. Mais on n'a pas d'autres subventions. Alors, on a des subventions si on part avec des jeunes, avec des scolaires, ou pas que des scolaires, parce qu'on s'adresse aussi à des jeunes qui sont en centre de formation. Par exemple, on a fait un voyage avec un groupe de l'école de la Deuxième Chance de Niort et de Châtellerault, ce qui était vraiment très, très bien. Donc là, après, on a des partenaires institutionnels qui nous aident pour l'organisation de ce type de voyage, encore une fois, avec les scolaires. Oui.
Il est important, j'imagine, de préparer les scolaires avant le voyage.
Oui, tout à fait. Là, par exemple, on prépare un voyage avec un groupe de collégiens du collège Jean Zay à Niort. Donc, c'est un collège qui fait partie du réseau de l'éducation prioritaire, avec une forte population d'enfants issus de l'immigration. Et ça fait presque un an qu'on se voit avec les trois professeurs du collège pour préparer le voyage. Et puis là, depuis quelques semaines, on se voit aussi avec les élèves. On leur présente le programme. On a regardé, par exemple, il n'y a pas longtemps, on a regardé regarder le film la plus précieuse des marchandises, etc., etc. Oui, oui, évidemment, c'est très important de les préparer, et surtout, c'est important de les accompagner véritablement. Nous, on n'est pas vraiment adepte de voyage de groupe, mais je pense que pour les élèves, évidemment, c'est évident, mais même pour les adultes, je pense que c'est vraiment très, très important de faire cette démarche en groupe, parce que c'est important de pouvoir se retrouver le soir ou à midi à table pour en parler, pour échanger ce qu'on a vu, les émotions, parce que vous pouvez vous imaginer que c'est pas un voyage très très facile, quoi.
Et quelles sont les réactions des jeunes en général sur place?
Alors les réactions des jeunes, c'est vraiment, ils sont souvent bouleversés. C'est lors des briefings qui peuvent durer le soir, une heure et demie, deux heures, donc ça passe de pleurs au rire. C'est vraiment des moments qui sont vraiment très très importants. Et on a plusieurs fois, on a rencontré des gens qui sont partis avec nous, des jeunes qui sont partis avec nous il y a quelques années, et encore quelques années après, ils nous disent que c'est un voyage qui les a vraiment marqués profondément, et puis qu'ils n'oublient pas. Je pense que c'est vraiment quelque chose de très très marquant pour les adultes aussi, mais surtout évidemment pour les jeunes. Ouais.
Pourquoi est-ce qu'il est essentiel, d'après vous, d'aller sur place, Michael, faire le voyage, faire le déplacement? C'est nécessaire au devoir de mémoire?
Oui, tout à fait. C'est vraiment essentiel, et surtout les adultes, mais même les jeunes qu'on prépare, évidemment, comme on a dit déjà. On a une connaissance, on a lu des livres, on a vu des films, de voir sur place comment ça s'est passé, et puis de d'être en face de toute cette immensité. Quand vous allez à Birkenau, par exemple, vous êtes cette immensité des lieux, ça, c'est à peine compréhensible. Oui, c'est vraiment, moi je pense vraiment que c'est très très important. Et puis en plus, donc on fait évidemment les visites des camps, évidemment, mais on a aussi d'autres points de programme qui nous permettent d'appréhender autre chose. Donc on a la chance encore de rencontrer les anciens déportés. Ils viennent de plus en plus rares, évidemment, malheureusement. Mais là, par exemple, depuis un an et demi, on rencontre régulièrement Madame Wernick, qui elle est née à Birkenau en novembre 44. Donc, comme plein d'autres enfants, hein, il y a eu des centaines d'enfants qui sont nés à Birkenau. Et elle peut encore nous parler de, pas forcément de ses propres souvenirs, parce qu'évidemment, elle en a très peu, mais elle nous parle beaucoup de sa maman, des souvenirs que sa maman lui a pu transmettre. Et puis voilà, et puis ça, évidemment, c'est inoubliable si vous êtes en face de quelqu'un qui a vécu ça. Quand on voit tout ce qui se passe en Europe, en Allemagne, en Italie, on ne parle pas de l'Hongrie ou des États-Unis. Oui, évidemment, c'est le populisme prend de plus en plus de place. Et puis nous, on fait ça aussi, évidemment, pour garder la mémoire des anciens déportés, mais aussi pour lutter contre toute forme de racisme et d'intolérance. Et puis voilà, donc ça nous paraît vraiment très, très important.
Mémoire partagée, c'est le nom de votre association qui est basée à Niort, dans les Deux-Sèvres. Merci beaucoup, Michael Butting.
Je vous remercie et je vous souhaite une bonne journée.
Bonne journée à vous.
Au revoir.
Au revoir.
France Inter, carnet de campagne.
Connaissez-vous le métier de reciculteur? Dans les Deux-Sèvres, une formation gratuite d'une durée de 2 mois permet d'apprendre ce métier qui porte un joli nom. Bonjour Nathalie Morin.
Bonjour.
Vous êtes la directrice de la Colporteuse, association qui s'occupe d'un tiers-lieu à Argentonnet, pas très loin de Thouars. Et vous faites partie de ce projet reciculteur avec une dizaine d'autres structures, notamment le mouvement Emmaüs. Comment pourriez-vous définir ce métier, cette compétence de reciculteur, recicultrice?
Alors, le métier de reciculteur, c'est la capacité à pouvoir réemployer, peut-être aller fouiller dans la poubelle pour pouvoir réutiliser des matières ou des objets pour en refaire quelque chose ou leur donner une nouvelle vie. Par exemple, dans les métiers de la soudure ou du bois, il y a beaucoup de déchets qu'on retrouve dans les déchetteries, par exemple, qui peuvent être réutilisés plutôt que jetés. Donc, c'est cette capacité à pouvoir reconnaître les déchets et en faire quelque chose.
Donc c'est une compétence qui peut concerner de nombreux métiers différents finalement.
Oui, exactement. Nous, on l'a plutôt expérimenté dans les domaines du bois, du métal et de l'éco-construction. Mais en fait, c'est vraiment une compétence qu'on pourrait appliquer dans l'ensemble des métiers manuels. Même en cuisine, par exemple, la capacité à pouvoir utiliser des fans ou en tout cas des produits qu'on jetterait parce qu'ils sont plus nobles et de leur donner une nouvelle vie en les transformant.
Quel est le public visé par votre formation ?
Alors, c'est plutôt des gens qui seraient à la recherche d'une nouvelle orientation professionnelle. C'est-à-dire qu'on on accueille des personnes qui, parfois, ont vécu une autre vie professionnelle et qui imaginent pouvoir peut-être investir les métiers manuels, mais qui ne savent pas comment commencer. Donc, ils peuvent venir chez nous pour venir découvrir ces métiers. Et nous, on rajoute un facteur de motivation qui est celui de la transition écologique. C'est comment est-ce que ces métiers manuels, ils servent bien à la transition écologique et au changement pour un monde meilleur demain, qui respecte plus le vivant notamment.
Donc c'est une sorte de pré-formation.
Oui, voilà, on est dans la pré-qualification, c'est-à-dire qu'on n'est pas dans une formation qualifiante, mais en tout cas c'est une formation qui permet de découvrir et d'expérimenter. Donc c'est une formation très pratique où on va pouvoir faire des choses et puis en parallèle on va aller visiter, on va s'immerger dans des entreprises exemplaires dans le monde de la recyculture.
Votre association La Colporteuse est installée dans un ancien château transformé en tiers-lieu à Argentonnet. Est-ce que c'est là que se déroulent vos formations ?
Oui, en partie. On va dire que la majeure partie de nos formations se font dans le château, donc dans nos ateliers techniques. Mais on se balade beaucoup sur le territoire pour notamment aller visiter tous ceux qui participent à cette formation, en allant visiter les ateliers Emmaüs ou la matériothèque, de manière à vraiment donner un aperçu de l'ensemble de l'écosystème de la recyculture ou de l'économie de la ressource, comme on pourrait l'appeler aussi.
Et comment est financée cette formation ?
Alors, on a eu la chance d'avoir le soutien de la région Nouvelle-Aquitaine dans le cadre du programme Définov, qui visait à soutenir des tiers-lieux qui avaient envie de développer des projets de formation innovants. Et donc, la région Nouvelle-Aquitaine a bien voulu nous suivre dans cette aventure.
Et aujourd'hui, votre association a-t-elle des besoins particuliers ?
Ben là, on va dire qu'on est à la fin de l'expérimentation, donc on a envie que ça continue, bien sûr. On a eu 3 sessions de formation, on a envie qu'elles puissent se pérenniser sur le territoire et puis peut-être aller faire des petits ailleurs.
C'est-à-dire que vous souhaiteriez donner l'exemple ailleurs ?
Oui, on aimerait que cette action elle puisse être transférable dans d'autres tiers-lieux ou sur d'autres territoires. Et notamment, on est en train de préparer un film pour pouvoir présenter notre projet et puis pouvoir peut-être donner des idées à d'autres en leur donnant quelques petites recettes.
Est-ce que vous avez un souvenir marquant de ces formations à me raconter ?
Ce qui est marquant, c'est à l'issue de la formation, on a des gens qui témoignent du fait qu'ils n'ont jamais touché une machine, qu'ils n'ont jamais soudé et qui nous présentent une réalisation qu'ils ont faite. Ça peut être une lampe, ça peut être une table. Et on est toujours surpris du résultat, à la fois en termes de technique, mais aussi les objets sont beaux et on sent qu'ils y ont mis tout leur cœur. Et voilà, c'est le meilleur témoignage qu'ils peuvent nous faire, c'est à travers leur réalisation.
Et ce sont des objets souvent qui sont issus de déchets transformés en ressources.
C'est ça, c'est-à-dire qu'on leur demande vraiment en 2 mois de proposer un objet, en tout cas entièrement composé de choses qu'ils auraient récupérées à différents endroits. Donc voilà, ils font preuve vraiment d'ingéniosité pour pouvoir assembler, réemployer des choses pour lesquelles on considère qu'ils n'auraient aucune valeur autrement.
Et ça donne de l'âme aux objets inanimés.
Oui, complètement. En fait, on a vraiment des objets qui sont incarnés. C'est vraiment des œuvres d'art. Et notamment, on a l'exemple d'un abribus qui a été réalisé par une session de formation à partir de lits médicalisés. Et donc, c'est un témoignage au quotidien. On le voit tous les jours de cet abribus en bois et en métal qui est vraiment très beau, qui tranche avec les autres abribus et qui est fait qu'à partir d'objets qui ont été récoltés dans l'ébène.
La Colporteuse, le projet Recyculteur, c'est donc à Argentonnet, dans les Deux-Sèvres. Merci beaucoup, Nathalie Morin.
Merci à vous.
Et à bientôt, bonne journée.
Au revoir, merci.